Nous relisons ce passage dans 2 Corinthiens 12, vous devez sûrement connaître par cœur maintenant. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors nous avons déjà parlé des faiblesses, des outrages, et aujourd'hui nous allons parler des calamités, c'est-à-dire des grandes infortunes personnelles, mais aussi des grandes épreuves qui nous tombent dessus, des morts d'êtres chers, etc. Les calamités, c'est quand des malheurs s'abattent sur nous. Pendant que les Hollandaises faisaient du shopping à Clermont-Ferrand, je m'ennuyais un peu, et j'ai été voir un SDF. Alors, il venait de grêler, c'était une catastrophe, il y avait des morceaux d'arbres par terre, etc. Et je m'approche de ce SDF, puis je commence un peu à parler de la pluie et du beau temps, et puis forcément, après, on parle d'autre chose. Et je discutais avec lui de comment il est arrivé à être SDF. Il me racontait qu'il avait une bonne situation, qu'il était représentant, et qu'un jour, sa voiture a été cambriolée et toutes ses affaires de travail ont disparu. Et puis, petit à petit, calamité sur calamité, il s'est retrouvé sans rien. Il s'est retrouvé à la rue et il s'était volé ses papiers. Et sans papiers, c'est compliqué pour retrouver du travail. Puis il a perdu des êtres chers, etc., etc., etc. À la fin, j'ai prié avec lui, et au moment de partir, parce que les Hollandais étaient revenus, il s'est levé, il m'a dit, mais je ne peux pas vous laisser partir comme ça, et il m'a enlacé, il s'est mis à pleurer, et il était heureux d'avoir passé ce temps et que j'ai pu prier pour lui. Voilà, c'est ce qu'on appelle une calamité, quand on a une bonne situation, puis que voilà, les choses de la vie font qu'on perd tout. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont subi une calamité. Il y a bien sûr Joseph, et je ne vais pas revenir dessus, mais on en a déjà parlé à ma dernière prédication. Et il y a une autre personne qui, à mon avis, vous avez tous en tête, c'est Job. Voilà. Et une autre personne, Jésus. On en viendra bien sûr après. Venons maintenant à la vie de Job. Job est quelqu'un d'intègre, de droit, et il craint Dieu. Dieu est content de Job. Ça, c'est très important. Il est content de Job. Mais le diable dit à Dieu que Job est simplement droit parce que Dieu le bénit. S'il souffre, on verra les limites de sa droiture. Dieu autorise, ça c'est assez bizarre, hein, il autorise le diable à faire tomber des calamités sur Job. Mais il n'a pas le droit de toucher à sa vie. Il n'a pas le droit de tuer Job. Job va alors subir des calamités de tout genre. Il va perdre sa fortune, il va perdre ses enfants, il va même être malade. Et il va subir tellement de calamités que sa propre épouse lui dit de maudire Dieu. Dans la suite du livre de Job, ses trois amis, Eliphaz, Bildad, si on l'a prononcé, pardon, et Sophar lui disent qu'il est coupable. Dans une autre prédication, nous avons vu les faiblesses. Et en général, nos faiblesses, elles sont en nous depuis la naissance. Elles ne nous tombent pas dessus. On a vu aussi les outrages. Les outrages, c'est des gens qui les prononcent, des gens souvent qui ne sont pas croyants, qui disent des outrages contre nous. Et là, ce sont les calamités. Et les calamités, elles nous tombent comme ça dessus, n'importe quand, et on ne sait pas vraiment d'où elles nous tombent. Du coup, comme on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, il y a des gens qui essayent de réfléchir. Puis ils disent, finalement, ces calamités, elles nous sont envoyées par Dieu. Et c'est pour cela que certaines personnes pensent que si on a beaucoup de calamités, c'est qu'on a fait quelque chose de mal devant Dieu. Dans la Bible, Jésus lui-même reprend ces personnes quand il dit en Luc 13, 1 à 5, « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » C'est vraiment une abomination pour les Juifs. Hein. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus grands coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Cette pensée que Dieu punit quand on fait quelque chose de mal existe encore de nos jours. Et c'est cette pensée, on peut la mettre dans la théologie de la prospérité. Alors j'ai regardé sur Wikipédia pour une petite définition. Appelée aussi doctrine de prospérité, évangile de la prospérité, est une croyance religieuse chrétienne évangélique qui prétend que la Bible enseigne que l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé spirituelle et que la pauvreté est une malédiction ou une punition de Dieu. Cette pensée est souvent ancrée en nous, car lorsque nous étions petits, lorsqu'on faisait de bonnes choses, qu'est-ce qui se passait par rapport à nos parents ? Ouais, un bonbon, on nous récompensait. Mais quand on faisait quelque chose de mal, on n'ose pas dire, bah, tu sais, mais voilà, il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Et forcément, comme on vit ça étant enfant, on a envie de mettre la même chose, de le plaquer à Dieu. Et on s'est dit, ben, quand je fais quelque chose de bien, Dieu va me donner une petite gourmandise, il va me donner quelque chose de bien dans la vie. Et puis quand je vais faire quelque chose de mal, bah, il va me punir, il va me mettre la fessée, mais alors oh là là, ça va vraiment le tonnerre. Voilà, c'est ancré en nous, mais c'est faux. Mais c'est ancré en nous. Et on a du mal quelquefois à se débarrasser de ces pensées qui sont ancrées en nous. Voilà, et tout ce vécu dans l'enfance va créer en nous beaucoup de questions quand les calamités vont arriver dans notre vie. Alors, je parlais des choses matérielles, mais cela peut être des personnes chères qui décèdent. Job a perdu ses enfants. C'est vachement dur, hein. Du chapitre 22 à 28, Job et ses amis essayent d'expliquer les souffrances de Job. Job et ses amis croient en ces deux hypothèses fausses. Si tu es bon et sage, tu auras la réussite et des récompenses. Si tu es méchant et insensé, tu auras le désastre et le châtiment. Pour les amis de Job, Job est fautif. Il a péché, donc il le mérite. Job mérite tout ce qui lui arrive. Job, si on va bien loin, il mérite que ses enfants meurent. C'est atroce de dire une chose pareille à son ami. Et pourtant, c'est ses amis de Job, c'est ce qu'ils disent à Job. Il a péché, donc il mérite ce qui lui arrive. Et du coup, Job ne comprend pas tout ce qui lui arrive, et il va jusqu'à dire, qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable, si du moins le fléau donnait soudain la mort. Mais il se rit des épreuves de l'innocent. Tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Vous comprenez bien que ça, c'est faux. C'est faux. Mais Job n'en peut plus. Car il ne comprend rien et il demande une réponse à Dieu. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire ? Et Dieu va répondre à Job, mais pas vraiment comme il le souhaite. Dieu lui dit, où étais-tu ? Quand je fondais la terre. Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le corbeau ? L'erreur de Job et ses amis, c'est qu'ils pensent avoir assez de recul pour comprendre le plan de Dieu. Et Dieu explique à Job que ce n'est pas le cas. Job n'est même pas en capacité de pouvoir faire tourner la terre, ne serait-ce qu'une seule journée. Alors qui est-il pour juger Dieu ? Job demande à Dieu, pourquoi doit-on souffrir dans ce monde ? Dieu ne répond pas à cette question et il dit simplement que nous vivons dans un monde magnifique qui n'a pas vocation à empêcher la souffrance. Pour finir, ce livre de Job ne nous explique pas pourquoi on doit subir des calamités. On aimerait bien le savoir, mais il ne nous le dit pas. Il n'explique pas le but de Dieu dans ces calamités, mais il nous invite à l'humilité. À travers ce livre, Dieu nous demande de moins parler et d'arrêter de répandre de fausses théologies sur les calamités. Il nous demande de revenir à notre place et d'arrêter de vouloir penser à la place de Dieu. Il faut accepter que notre esprit est limité, contrairement à celui de Dieu, et que nous ne pouvons pas tout comprendre, mais nous pouvons faire confiance à Dieu, qui lui a toutes les cartes en main. À la fin de ce livre, Dieu honore Job, même si celui-ci a été dur envers lui. Car si vous lirez le livre de Job cette semaine, vous verrez que Job n'a pas que des paroles douces quand il s'adresse à Dieu, mais aussi des paroles très dures. Et pourtant, Dieu va le bénir. Parce que toutes ces récompenses que Job va avoir à la fin du livre, ce n'est pas une récompense. Il ne le mérite pas, mais Dieu lui donne par pure grâce. C'est un cadeau que Dieu fait à Job, et non pas quelque chose que Job mérite, parce que finalement il aurait réussi l'épreuve. Parce que si on regarde bien ce livre de Job, Job n'a pas vraiment réussi l'épreuve, parce qu'il se fait reprendre par Dieu, et Dieu le remet sur la bonne route. Mais Dieu, voilà, décide uniquement par grâce, par amour pour Job, de le bénir. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a également subi des calamités. La première, c'est laquelle ? Finalement, c'est de descendre du ciel et de venir ici sur la terre, habiter parmi les hommes. Ça peut être vu, mais en tout cas, maintenant, je le vois comme une calamité. C'est très loin d'être une bénédiction que de venir parmi les hommes, habiter parmi les hommes. Avec la maladie, la souffrance, il choisit d'être là. La deuxième, c'est qu'il descend du ciel, mais il ne choisit pas d'aller parmi les riches. Il ne choisit pas d'aller dans le palais de César, mais il choisit une étable. Il y avait mieux quand même. Mais il choisit cette étable. Quand même. Et la dernière, qui sont les plus dures finalement, c'est d'être trahi par son peuple et d'être mené à la croix pour être crucifié et torturé. Ça, c'est une calamité. Et pourtant, nous le savons, s'il y en a un qui était juste, c'est Jésus. Il était juste, il était sans péché. Et cela ne l'a pas empêché de subir des calamités. Donc on voit que c'est faux, cette théologie qui dit qu'on mérite les calamités, pardon. Nous ne méritons pas les calamités qui nous tombent dessus. Dieu ne nous punit pas. Dieu nous aime. Chassons de nos têtes cette pensée qui pourrait croire que Dieu est un Dieu qui aime punir. Non, Dieu nous aime. Et malgré toutes ces calamités qui sont tombées sur Jésus, eh bien, Jésus a triomphé. Il a triomphé de la calamité. Il a triomphé de la mort. Et grâce à ces calamités qui sont tombées sur lui, aujourd'hui, nous pouvons être en communion avec Dieu, avec lui, être en paix. Et il fallait qu'il passe par ces calamités. Durant notre vie, plusieurs d'entre nous, et là je suis gentil parce que je pense que malheureusement nous y passerons tous, mais bon, plusieurs d'entre nous subiront des calamités. Certains vont perdre de l'argent, un logement, un être cher. Et face à ces calamités, nous avons plusieurs choix devant nous. Parmi elles, nous avons le choix de nous révolter contre Dieu en disant qu'il est injuste. Nous pouvons aussi ne rien dire et rester dans notre coin avec toute notre tristesse et puis dans notre tête en disant plein de choses. Nous pouvons aussi venir à Dieu et lui dire « viens m'aider, j'ai besoin de toi ». Il y a d'autres solutions. On pourrait être tenté de dire qu'il y a une solution face à la calamité. Il y a une solution à choisir. On pourrait être tenté à dire cela. Mais il me semble que le plus important, ce n'est pas vraiment notre réaction, mais notre cœur. Job a choisi de se révolter contre Dieu, et ce n'est pas forcément, d'un point de vue humain, la meilleure solution. Et pourtant, à la fin, tout finit bien. Pourquoi ? Parce que Dieu voyait le cœur de Job. Il voyait tous ses questionnements. Il voyait que pour lui, il y avait beaucoup d'injustice. Et il avait compassion pour Job. Nous sommes tous différents. Il n'y a pas une seule personne qui est pareille. Et face à la calamité, nous réagirons tous différemment. Et ça, Dieu le sait. Donc ne culpabilisons pas si nous ne réagissons pas pareil que l'un des anciens ou que l'un des grands évangélistes en France. Non, nous réagirons tous différemment face à la calamité. Et ça, Dieu le sait. Il connaît nos cœurs. Il faut faire attention de ne pas aller voir les autres, ceux qui subissent les calamités, et leur dire « mais tu sais, tu devrais réagir comme ça. Tu sais, tu ne devrais pas rester dans ton coin à te lamenter, tu devrais prier plus Dieu, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. » Et finalement, se comporter comme les amis de Job, non. Ce qu'il faut faire, c'est aider nos frères et sœurs à trouver une réponse en Dieu, pas en nous. C'est pas nous qui allons donner la solution à ceux qui nous entourent. Mais nous pouvons quand même faire quelque chose. C'est encourager nos frères et sœurs à trouver la solution en Dieu. Et comment les encourager? En témoignant. En témoignant comment, face à la calamité, nous avons réussi à nous en sortir en Christ. Alors le but n'est pas de dire, voilà comment je me suis sorti, fait de même, non, c'est, voilà, Christ était là. Christ était là quand j'ai subi ces calamités et il m'a aidé. Il m'a aidé parce que j'étais unique, il m'a aidé d'une certaine façon et il t'aidera toi aussi d'une autre façon. Mais regarde, Dieu est fidèle. Donc ça, nous pouvons le faire, le témoignage est important. Mais pas dans le but de dire, regarde, moi j'étais bien, fait de même, non. Voilà, Dieu est là, fais-lui confiance. Le plus important face à la calamité, c'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus et de lui parler, tout comme Job l'a fait, avec nos propres mots. Nous sommes différents, donc allons-y. N'ayons pas peur de parler à Dieu. Alors je dirais dans le respect, mais au bout d'un moment, je pense que Job, le respect était vraiment différent. Mais bon, Dieu l'a compris. Alors, soyons sincères dans notre cœur avec Dieu. Quelquefois, oui, il faut sortir de voilà, je veux être comme ça, carré, non, je... Voilà. Au bout d'un moment, il faut évacuer le tout. Il faut l'évacuer au pied de la croix. Et donc, chez vous, vous pouvez parler à haute voix, parler à Dieu, et lui balancer tout ce que vous avez sur le cœur. Vous pouvez, parce que lui, il a la solution pour vous sauver. Et je pense que c'est ça aussi, tout remettre au pied de la croix, c'est de oser prier à voix haute, quand personne ne vous entend, ou dans votre cœur, mais... Et pour vous, c'est vrai que c'est un peu plus facile, et de lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Et Dieu nous entendra, et Dieu viendra à notre secours. Et même si vous êtes timide, et puis que du coup vous n'arrivez pas à crier à Dieu, c'est pas grave, c'est Dieu lui-même qui viendra et vous tendra cette main d'amour. C'est vraiment fantastique avec Dieu parce qu'on n'a rien à faire. On a juste à être dans ses bras, accepter que son aide vienne dans nos cœurs. Mais revenons au début de notre prédication. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les calamités pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. En quoi subir des calamités peut être positif? Ça, c'est une bonne question. Hein. Pour ceux qui en ont subi, en quoi ça peut être positif de subir des calamités?
L'apprentissage.
Et là, je me suis souvenu des paroles du diable. Alors, excusez-moi. Là, elles sont intéressantes, les paroles du diable dans Job. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Lorsque tout va bien, c'est facile de bénir Dieu. Puis les gens qui nous entourent nous disent « Oui, attendez, il croit en Dieu, mais c'est facile, il n'a rien dans sa vie, tout se passe bien, c'est facile. » Mais quand tout se passe mal dans notre vie, et que nous bénissons Dieu, alors là, il y a des interrogations. Il y a des grandes interrogations. Pendant le camp, j'ai parlé avec un jeune, alors complètement par hasard, il a perdu son papa, et je lui demande comment il l'a perdu. Alors là, le drame, il me raconte qu'à l'âge de 16 ans, peut-être vous en avez entendu parler, son papa était pasteur et il part faire de l'escalade avec son fils. Et il monte et c'est son fils de 16 ans qui l'assure. Et de là, pas que le papa tombe et lui il vole et puis je sais pas, il a dû saisir la corde, il s'est brûlé et paf ! Le papa qui tombe par terre, qui se tape la tête, qui tombe dans le coma et suite à cette épreuve, son papa décède. Son papa qui était pasteur, il décède. Alors, ma réaction, moi, tout de suite, c'est « Mais comment t'as fait pour vivre avec cette culpabilité ?» Je veux dire, c'est, malheureusement, il avait la vie de son père dans les mains, chose que j'ai déjà fait de l'escalade, mais celui qui assure, en fait, il a vraiment la vie de l'autre entre les mains. Et tout est tombé, et paf, son père est mort. Je lui dis « Comment t'as pu faire pour guérir de cette culpabilité ?» Et il me dit, écoute, il y a eu un miracle, j'ai eu aucune culpabilité. Il me dit, mais quelquefois, ça m'arrivait de culpabiliser, de ne pas avoir de culpabilité. Il dit, mais Dieu m'a enlevé toute cette culpabilité. Et je ne sais pas comment dire la chose, mais même au-delà de ça, Dieu a réussi à faire de cette catastrophe quelque chose de bon pour la famille. Et juste de dire ça, il y a un truc qui ne va pas, quoi. On ne peut pas dire que perdre son père, c'est quelque chose de positif, vous êtes d'accord avec moi. Et pourtant, à l'écouter, il y a tellement eu Dieu au cœur de tout ça, que les choses ont été vécues d'une façon qu'on ne peut pas penser. Et même de l'écouter, on pourrait se dire, maintenant, il y a un truc qui ne va pas dans la tête de ce jeune. En fait, ce qui ne va pas, entre guillemets, c'est ce qui n'est pas logique pour nous, c'est que Dieu était à l'œuvre. Et que Dieu fait des miracles. Et quand il raconte ça, ça témoigne de la grandeur de Dieu. Face à cette calamité qui est tombée dessus, il disait même un de ses frères a dit, mais comment Dieu va utiliser cette calamité pour le glorifier? Il dit, je suis impatient de voir ça, alors qu'ils venaient de perdre leur papa depuis pas longtemps. C'est vraiment incroyable. Voilà. Et Dieu utilise ces calamités pour que son amour resplendisse aux yeux des hommes. Alors bien sûr, je ne vous le souhaite pas. Je ne vous souhaite pas de telles calamités dans votre vie. Mais quand cela nous arrive, laissons Dieu l'utiliser pour son royaume. Quand ces calamités nous tombent dessus, regardons à Christ. Nous ne choisissons pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Mais quoi qu'il arrive, ce qui peut être pour nous une faiblesse, une catastrophe, ne l'est pas pour Dieu. Car il nous aime et il utilise tout ce qu'il arrive dans nos vies pour sa gloire. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui nous les envoie, faisons encore attention, mais il utilise toutes choses pour sa gloire. Si vous êtes dans une calamité, ou si demain vous tombez dans une calamité, regardez à Jésus et soyez convaincus qu'il prendra soin de vous. Alors, il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Cette semaine, j'ai rencontré une personne, et cette personne qui est chrétienne avait une très bonne situation. Et il voyageait à travers le monde, et les choses lui sont tombées dessus. Dépression, il a fait un AVC, et après il s'est retrouvé à ne plus pouvoir parler, plus pouvoir marcher. Et j'ai utilisé cette prédication en lui donnant, et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit, c'est dur. Quelquefois, quand je dors, je me réveille et j'ai peur de l'avenir. J'ai peur de ne plus avoir d'argent, de me retrouver à la rue. Ça a encouragé à prier. Pardon. Et surtout, voilà, tout ça, c'est légitime. Si vous êtes dans une calamité aujourd'hui et vous posez beaucoup de questions, vous pouvez le faire, c'est légitime. Et Dieu vous entend. Dieu vous entend et Dieu viendra à votre aide. Si vous avez besoin de parler, bien sûr, les conseillers sont là, je suis là. Et je vais terminer comme ça, c'était une mauvaise fin. Voilà, on va prier. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es là dans nos vies. Et même quand il y a des choses qui nous tombent dessus et qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, ben Seigneur, nous savons que tu es là et que tu nous porteras durant cette épreuve. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour tout ce que tu vas encore faire dans nos vies.